L'invité du grand entretien ce matin est professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du comité consultatif d'éthique, auteur des maladies chroniques de la démocratie, publié chez Desclés de Brouwer, c'était en 2017. Frédéric Worms, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et merci d'être au micro d'Inter après un mois de mobilisation des Gilets jaunes, un mois de crise au sens strict, au sens fort, dont on ne sait pas si elle est terminée, ni dans le cas contraire de quoi elle pourrait accoucher. Comment le philosophe que vous êtes, le philosophe de la politique et du soin, a-t-il traversé ces semaines ?
Dans le partage, d'une façon partagée, d'une façon ambivalente. Moi, je pense que la démocratie, d'une manière très générale, on l'a vu, là, on vient de le voir sur le Congo, la démocratie est le régime, peut-être le seul, qui peut affronter les conflits sociaux. Et de ce point de vue-là, et par des institutions qui permettent de le réguler. Donc par exemple, le vote, les élections, ce qui ne suffisent jamais, mais on voit bien là quand même que c'est une étape majeure. Et si la démocratie est le régime qui peut affronter les conflits sociaux, on peut dire que d'une certaine manière, en France, elle va bien. Puisque les conflits s'expriment, puisque la division sociale n'est pas refoulée, n'est pas mise sous le tapis. Mais en même temps, est-ce qu'elle va si bien? Parce qu'il faut quand même pouvoir les traiter. Il faut des institutions pour les traiter. Il faut d'abord les expliciter. Il faut pas se tromper d'objet du conflit. Quel est le conflit qui a émergé? Comment le traiter? Il y a d'un côté, je pense, quelque chose de positif dans l'émergence des problèmes, dans la parole, dans l'expression. Mais en même temps, maintenant, on est à l'étape du soin, justement, comme vous venez de le dire.
Avez-vous senti la République trembler, vaciller ou au minimum se désorganiser pendant ces semaines ?
Alors, y a un petit risque, mais en même temps, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a quand même une forme de confiance dans ce qui s'est exprimé en France, de confiance dans la capacité de la France à traiter ces sujets-là. Une France qui ne pourrait pas traiter les sujets sociaux, qui ne pourrait plus traiter du tout la question des inégalités. Oui, je pense que ce serait dangereux. Bien sûr, il y a des doutes, mais je pense qu'ils portent moins, à mon avis, sur le cœur des institutions que sur le fonctionnement de la politique aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore deux forces, au moins, républicaines, démocratiques, qui peuvent proposer des solutions opposées, qui peuvent débattre de manière critique? C'est pas sûr. Donc c'est une situation conjoncturelle où on a un bouleversement politique majeur, où les équilibres ont changé, où on a un parti majoritaire et plus d'alternatives potentiellement majoritaires. Et donc, d'une certaine manière, est-ce que ce sont les institutions de fond qui sont ébranlées, ou est-ce que c'est un contexte qui ne permet plus de les nourrir de l'intérieur? Moi, je suis plutôt du deuxième côté, mais par contre, il y a quand même urgence pour structurer le débat aujourd'hui.
Quand on relit les maladies chroniques de la démocratie publiées en 2017, déjà on se demande, écrirait-il le même livre après la mobilisation des Gilets jaunes? Mais vous écrivez que le stade ultime de la crise de la démocratie, c'est précisément quand les institutions ne sont plus considérées comme le cadre neutre qui permet de régler démocratiquement les oppositions qui peuvent traverser une démocratie. Donc ça, c'est la crise ultime. Est-ce qu'on n'y est pas malgré tout?
Il y a un petit risque. La crise ultime, c'est quand, moi je disais, la démocratie et le régime qui affrontent les conflits d'une société, qui les affronte sans les confondre. Aujourd'hui, on a plusieurs conflits, on a des conflits sociaux, on a des tensions mondiales, on a les problèmes écologiques. Le risque, c'est que tout se confonde et qu'on ait le sentiment, en effet, d'une crise généralisée, d'une impuissance généralisée des institutions. Or, pour avoir confiance dans les institutions, il faut qu'elles affrontent les problèmes et un par un. Moi, le risque que je vois aujourd'hui, c'est que y ait ce mélange des sujets qui est, certes, il faut traiter tout, les crises de la politique mondiale, la place de l'Europe, la crise écologique, les crises sociales, mais il faut aussi pouvoir les traiter un par un. Moi, ma préoccupation pour faire diminuer le taux de montée des maladies chroniques, le pic et la convergence des crises, ce serait qu'on puisse vraiment isoler les problèmes qui ont été portés par les Gilets jaunes. Pour moi, c'est d'abord les questions sociales. Si on traite celles-ci, alors je pense qu'on retrouvera confiance sur les autres aussi. Donc, distinguons les problèmes pour éviter la convergence des crises.
Pourquoi c'est le problème premier, d'après vous ?
Parce que je pense que, au fond, il y a eu un dévoiement des questions démocratiques en France et en Europe depuis de longues années, je pense. Une sorte de masquage des questions politiques traditionnelles, je dirais liberté, égalité, par des questions suscitées peut-être par des angoisses réelles sur l'identité, sur la culture, sur des questions essentialisantes sur la France et sur l'Europe. Je pense que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est remettre l'accent sur des questions de liberté. sur le libéralisme, qui n'est pas illégitime. Et aujourd'hui, il faudrait le mettre sur les questions d'égalité, retrouver vraiment les questions d'égalité. Ce qui s'exprime est tout à fait légitime sur ce plan-là. Il y a quand même des vraies questions d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès au travail, d'accès au transport, d'accès à des choses concrètes. Et je pense que notre souci commun devrait être de traiter ce problème-là, à côté des questions de liberté, en plus, pour éviter le mélange des questions qui peut amener, en effet, le doute sur la démocratie en général, à quoi ça sert, le doute sur la justice, et maintenant, de nouveau, des questions existentielles sur l'identité, l'autre, l'ennemi, la guerre, les ennemis de l'intérieur. Au fond, retrouver un conflit normal pour éviter le conflit des bons contre les méchants, du peuple contre ceux qui seraient uniquement voués à le dominer.
Alors, le peuple, venons-y, notamment, les manifestations de gilets jaunes ont eu lieu hors parti, hors syndicat, hors association, et elles ont été décrites comme un moment où toute une catégorie de Français, qu'on a appelé invisibles, eh bien précisément se manifestaient dans l'espace public, ils y surgissaient. Diriez-vous pour autant que c'est le peuple qui était dans la rue ou sur les ronds-points, comme certains gilets jaunes l'ont affirmé, certains politiques aussi?
Le peuple, c'est tout le monde. Et donc, ceux qui ont voté pour les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale font aussi partie du peuple. Le fait de rendre illégitimes les députés, on parlait des institutions, est évidemment très grave. Donc, il n'y a pas un surgissement de tous contre un petit nombre qui ne serait pas du peuple. Il y a une division dans la société qui s'exprime par cette revendication d'être le peuple. Et tout le monde veut être tout le peuple, mais personne ne l'est. Par définition, dans une démocratie, le peuple est divisé. Ce que cela manifeste, c'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un déséquilibre actuel, un déséquilibre de la politique avec un manque d'expression non seulement de positions politiques précises, je dirais social-démocrate, égalitaire, ces positions-là ont vraiment reculé et il est temps de les faire remonter, et un déséquilibre social tout court. Et il y a évidemment, je crois, un rééquilibrage majeur à faire. Rien n'est plus dangereux que de remplacer les divisions internes légitimes, la gauche et la droite, même les riches et les pauvres, c'est une division majeure, et qu'il faut rééquilibrer constamment par des divisions fictives, par exemple le peuple contre les élites, le peuple contre Parce que quand on parle du peuple, c'est souvent aussi contre les autres peuples.
Mais pourquoi est-elle fictive, cette distinction peuple-élite, même si on peut voir les arrière-pensées parfois politiques dans ce couple-là qui s'est réimposé ces dernières années dans le débat public? Pourquoi est-ce une opposition fictive?
Elle n'est pas entièrement fictive, elle a toujours une part de légitimité. Quand il y a un déséquilibre social trop grand, on peut dire effectivement qu'il y a, au sens social du mot peuple, un vrai déséquilibre qui s'est créé entre, disons, un énorme pourcentage de la population et une petite partie qui accapare les richesses. De ce point de vue-là, par exemple, aux États-Unis, on a un populiste au gouvernement qui se réclame du peuple, mais qui fait partie justement de la petite frange de ceux qui n'en sont pas, concrètement. Mais par contre, évidemment, d'un point de vue politique, dire que l'alternative, c'est le peuple et un petit groupe qui le domine sciemment, je pense que c'est impossible à affirmer en France. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des élections qui ont eu lieu. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou députés ont été élus par une partie du peuple contre une autre, comme toujours. Et ça n'a rien de nouveau. De même, quand on critique les professeurs, quand on critique les médecins, quand on critique ces élites-là, qui ont une forme de légitimité, qui n'est certes pas là non plus exclusive, mais qui est quand même partielle, c'est très grave. Donc, il ne faut pas confondre le mot élite. Il peut y avoir un déséquilibre social qui peut créer un sentiment de clivage majeur. Mmh. Mais ailleurs, il y a des compétences légitimes qui ne légitiment pas tout, pourtant. Par exemple, prenons la question du savoir. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Bien sûr, il ne faut pas de gouvernement des experts. Ça, ce serait une usurpation, disons. Même là, je suis là, en tant que professeur de philosophie, je ne vais pas dire que j'ai les solutions à tout. Malgré tout, il faut partout du savoir. Il faut, pour la crise climatique, même pour la crise sociale, il faut des compétences. Si vous êtes malade, vous avez besoin quand même de quelqu'un qui a appris un peu de médecine. Donc, il ne faut pas délégitimer ce qu'on appelle les élites, certaines élites, qui ont des fondements, soit démocratiques, soit simplement techniques, intellectuels. Et on a absolument besoin de relégitimer non pas l'élite face au peuple, mais quand même le savoir face aux doutes et aux soupçons, l'élection démocratique face à la crise, en effet, dans les esprits.
Alors, je devance déjà les réactions que ce type de propos peuvent susciter. Ah ben voilà un représentant des élites qui a peur pour lui-même et qui a peur du peuple. Ça, on le voit depuis un mois dans le discours public. Toute position comme celle que vous venez de formuler, bon, prends cette critique-là, voilà, c'est les élites, ils comprennent pas, et en plus, ils ont peur.
Moi, j'ai absolument pas peur du peuple, au sens qu'on vient de dire. Ce dont j'ai peur, c'est de l'idée de ceux qui en profitent, de ceux qui le manipulent. Et moi, j'aurais plutôt envie de dire aux gens, comme je le dirais à mes élèves, comme tout professeur devrait aujourd'hui peut-être le dire à ses élèves. Et je pense d'ailleurs qu'il devrait y avoir une mobilisation des institutions légitimes du savoir pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer les faits. Je pense que j'ai peur de ceux qui manipulent le peuple, entre guillemets. Et là, c'est vrai qu'il faudrait les prendre droit dans les yeux et dire pourquoi est-ce que vous en rajoutez sur les peurs? Pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'y a aucun moyen de les affronter? Pourquoi est-ce que vous avez peur des faits? Pourquoi est-ce que vous avez peur du savoir? Pourquoi est-ce que vous avez peur du débat? Donc, moi, c'est de cela que j'ai peur. Et je pense que c'est de cela que le peuple devrait avoir peur. Il se trompe. Ceux qui lui mentent le plus ne sont pas ceux qu'ils croient. Ceux qui mentent, ce ne sont pas ceux aujourd'hui qui affrontent le débat, qui affrontent la critique. En France, il y a des contre-pouvoirs, il y a la presse, il y a la justice, il y a évidemment des revendications citoyennes. Il faut des contre-pouvoirs. Ceux qui mentent le plus, ce sont ceux qui disent que la démocratie ne sert à rien, que tout va mal. C'est faut pas se tromper de menteur.
Mmh. Frédéric Worms, vous y consacrez une longue tribune dans Libération ce matin. Comment avez-vous vu les théories du complot qui ont fleuri très très vite, notamment autour de l'attentat de Strasbourg? Ah, voilà un attentat qui tombe bien, trop bien, tellement bien pour l'État. Ça va permettre de tourner la page de la crise des Gilets jaunes.
Ben pour moi, c'est un symptôme absolument majeur, Nicolas Demorand. Le fait que certains puissent soupçonner un gouvernement démocratique en France d'avoir commis lui-même un attentat pour détourner l'attention d'une situation sociale, c'est évidemment un symptôme majeur de détresse, d'angoisse, je dirais, parmi nous, dans notre société. Et je pense qu'il faut y voir deux choses. D'abord, il faut y voir, je crois, justement ce symptôme d'une perte de confiance dans la capacité de la démocratie à répondre aux conflits. Un doute majeur, un doute sur le conflit aussi qui suscite le terrorisme, mais évidemment un doute sur le conflit social. On ne s'occupe plus de nous, on nous ment. Ça va très vite. Et puis, il y a ces théoriciens du complot qui alimentent ce doute en permanence et auxquels il faut absolument opposer le recours aux faits, le recours à la vérité. Donc c'est le symptôme majeur. Je crois que les théories du complot aggravent tous les problèmes, les multiplient par deux, par mille, sont aussi le symptôme d'une communication absente. Chacun n'écoute plus que son canal d'information. Il y a encore, heureusement, comme ici, quelques institutions communes, et dans l'université, dans l'école, mais c'est très fragile. Et je pense qu'il faut donc lutter sur deux fronts. Il faut d'abord rétablir la confiance domaine par domaine. Si les gens ont confiance dans le fait qu'ils ont accès aux soins, aux transports, à l'éducation, à la justice, au travail, et que ça progresse, ils prêteront moins l'oreille aux doutes. Mais il faut aussi lutter contre les agitateurs du soupçon et contre ceux qui entretiennent vraiment les confusions les plus graves. Encore une fois, accuser en France un gouvernement d'attentat, ce qu'ils font comme ça par une sorte d'angoisse ne mesure pas la gravité de la chose.
Une dernière question avant de filer au standard où les auditeurs de France Inter sont nombreux. Une question sur la violence verbale et physique qui s'est exprimée dans cette crise. J'aimerais rappeler ce chiffre tout de même qui est ahurissant. Il y a eu 9 morts, 2900 blessés tout de même dans cette crise des Gilets jaunes. Est-ce que cette violence que certains analysent à l'ancienne, je dirais, comme la forme que prend l'histoire quand elle est en train de s'écrire, est-ce qu'elle n'est pas à côté du complot un très grave symptôme ?
Oui, bien sûr, elle est un symptôme. La violence, et on le dit souvent, il n'y a rien d'original là-dedans, la violence surgit quand on n'a pas affronté le conflit. Ça devrait être justement ce que la démocratie permet d'éviter. Et évidemment, quand elle surgit de cette façon-là, aussi de manière verbale, elle est extrêmement grave. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait dire que les excès de violence physique, il y a parfois, dans toute démocratie, comme la démocratie est le régime qui affronte les crises, elle ne peut pas toutes les prévoir. Quand les crises surgissent, quand il y a des déséquilibres, ça passe par des manifestations physiques. Le fait d'aller dans la rue en soi, l'expression directe dans la rue est un espace public, fait partie des moyens d'expression légitimes. Bon, mais les excès de violence, la violence physique, est effectivement toujours un symptôme très grave et toujours, à mon avis, pardon de revenir à mes dadas ou à mon analyse, toujours un effet de la violence verbale. Et je crois quand même que les responsables de ces violences physiques sont toujours du côté de ceux qui pratiquent la violence verbale et qui incitent à la violence physique. Quand on pratique l'insulte, quand on pratique la délégitimation, quand on pratique l'exclusion, dans le discours, elle finit par se traduire dans les actes.
Allez, on passe au standard pour amorcer ce dialogue avec Frédéric Worms. Francis, vous ouvrez le bal, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Francis.
D'abord, je suis très satisfait d'entendre tous ces sujets abordés, là, et puis ce dernier, là, sur la violence, effectivement, il y a une des pires violences qui existent, c'est le déni. Et justement, je voulais interroger cet aspect d'une espèce de déni de l'expression démocratique à travers le mode de scrutin. On n'en parle pas assez, mais c'est le premier outil d'expression du peuple, et systématiquement, d'élection en élection, on court d'échec en échec. Enfin, les analyses le montrent ces dernières années que c'est un petit peu systématique. Et on n'interroge jamais cette expression-là. Voilà, le mode de scrutin, un petit rappel, hein, il a été instauré pour élire Napoléon en 1848. Voilà. Et depuis, on a parlé aussi d'un attentat. Enfin, c'est assez drôle parce que l'histoire bégaye. De Gaulle a profité de l'attentat du petit Calmar pour faire passer ce mode de scrutin-là et son élection. Voilà, pour s'accorder beaucoup de pouvoir.
Alors,
et là,
dites-nous votre question. Dites-nous votre question, Francis.
C'est, est-ce qu'il faudrait pas d'abord remettre en cause cette expression pour les élections, le mode de scrutin, et de donner les moyens aux gens d'avoir l'impression de s'exprimer. Il y a les attentionnistes qui sont culpabilisés, mais en fait, ils peuvent rien dire. Et puis, effectivement, on se retrouve dans des situations où un premier tour permet aux gens de s'exprimer. Mais en fait, finalement, tout d'un coup, au deuxième tour, il faudrait juste que moins de 20% des gens qui ont donné un avis favorable à une personne devraient se prononcer à nouveau ou changer d'avis complètement. Et
bien
on
compris.
Se retrouve, voilà.
Bien compris, Francis. Merci pour votre intervention. Frédéric Worms vous répond.
Oui, merci de cette question très importante. Moi, ce que je pense d'abord, c'est qu'il faut pas douter du vote au suffrage universel comme principe d'expression démocratique en général. Il y a des effets aujourd'hui de certaines situations politiques qui amènent certains à douter de ça. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça ne résout pas tout. Mais c'est évidemment un palier fondamental dans le traitement des conflits d'une société. C'est un degré qui peut définir l'entrée dans un meilleur état de la démocratie. Ça ne rend pas un pays entièrement démocratique. Du coup, le mode de scrutin est aussi un problème, évidemment, très important. Le défaut principal, à mon avis, du mode de scrutin français, il apparaît en effet en ce moment. Quand le scrutin majoritaire ne permet plus d'opposer deux options politiques claires au sein de la démocratie, mais dans un paysage éclaté, fait qu'un parti majoritaire fait face à une dispersion de voix où il n'y a plus de canal clair et donc ça construit ce déséquilibre majeur. Comment le compenser ? D'abord par une reconstruction, je pense, d'une opposition claire sur des sujets, à mon avis, sociaux. C'est vraiment quand même liberté, égalité. Et certains disent qu'il faut la fraternité, mais pour avoir la fraternité, il faut d'abord avoir liberté et égalité.
Donc comment donc ça, c'est le moment est venu de s'occuper de l'égalité.
Voilà, exactement.
Vraiment.
C'est ça mon point central, je crois. Mais le deuxième point, c'est évidemment de compléter le scrutin, quel qu'il soit. On peut toujours le perfectionner, mais il ne suffira jamais par d'autres institutions d'expression démocratique.
Le RIC, le fameux RIC,
alors on parle
référendum d'initiative citoyenne.
On parle aujourd'hui de ça. Moi, j'y vois un symptôme de ce dont notre auditeur et interlocuteur vient de parler, c'est-à-dire le symptôme d'une insuffisance des institutions, mais d'une nécessité malgré tout, hein. Nécessaire mais pas suffisant. Et ce référendum peut être intéressant à condition aussi de déterminer ses objets. Pour moi, d'une manière un petit peu simple, je pense que comme il est le symptôme d'une crise sociale, il est évident que si on arrive à traiter les sujets sociaux, ce référendum sera peut-être moins nécessaire et surtout il faut bien le centrer sur les outils qu'il peut amener pour traiter les questions réelles, les problèmes réels, sur lesquels il y a d'abord besoin d'un diagnostic.
Vous pensez à quoi par exemple ?
Bah justement, les questions sociales, où en sommes-nous aujourd'hui des inégalités ? Où en sommes-nous réellement de la qualité de vie en France ? Où en sommes-nous des minima sociaux ? Où en sommes-nous de la pauvreté ? Où en sommes-nous de l'avenir des enfants des uns qui ne peuvent pas quand même aller plus mal que les parents voilà, où en sommes-nous de la progression sociale concrète des uns et des autres ? Tant qu'on n'a pas fait le diagnostic, il ne faut peut-être pas aller trop vite vers le remède.
Benjamin est au standard. Benjamin de Saint-Ouen, bienvenue.
Bonjour, à propos du référendum, les élites n'ont-elles pas déclaré la guerre au peuple le jour où Nicolas Sarkozy et le PS ont ratifié le traité de Lisbonne après le nom de ce peuple au traité constitutionnel européen de 2005.
Merci Benjamin. Frédéric Worms.
Alors la guerre au peuple, je pense que c'est excessif. En revanche que c'est été en effet la source d'une crise majeure de défiance envers les institutions démocratiques, je le crois. Effectivement. Je pense qu'il faut absolument respecter les institutions. S'il y a un référendum, si on le fait, il faut évidemment le respecter. Je prendrai un exemple qui n'a rien à voir tout à fait ailleurs. Une des grandes crises internationales du moment vient, à mon avis, du non-respect par les États-Unis des institutions de l'ONU quand ils sont entrés en guerre en Irak, il y a déjà bien longtemps, sans respecter le droit international. On dit là, il n'y a pas de communauté internationale. Mais il y a un minimum qui est quand même quelques principes de droit international. Si on ne les respecte pas, alors on entre dans le chaos. Et c'est là qu'on est. En effet, moi je dirais pas la guerre contre le peuple. La guerre contre le peuple, c'est justement légitimer aujourd'hui la crise et le doute sur toutes nos institutions, ce qui est faux. Si un homme politique est corrompu, ça veut pas dire que tous les hommes politiques le sont. S'il y a eu une erreur grave, voire quand même un déni de démocratie, ça ne veut pas dire que toute la démocratie est en danger. Mmh. Donc pas guerre contre le peuple, mais problème grave, oui.
Alors, parce qu'ils ont choqué, pour vous permettre de préciser vos propos, cette intervention sur l'application de France Inter de Thomas, cher monsieur, parlez au peuple comme on parle à ses élèves, et il vous cite, n'est-ce pas précisément ce genre de condescendance que les gilets jaunes rejettent ?
Mais
Frédéric Worms.
Moi je m'adressais surtout aux autres qui parlent au peuple en prétendant ne pas le prendre de haut, qui sont des idéologues qui, à mon avis, le prennent de beaucoup plus haut. Évidemment que moi, j'ai une compétence qui est celle de pouvoir transmettre un peu de moyens à chacun de résister au doute. Et je pense que, au contraire, il faudrait aujourd'hui que réhabiliter l'école comme lieu de travail en commun et peut-être créer des espaces d'expression civique où on puisse venir parler avec les professeurs, leur poser des questions sur leur domaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce moment? Mobiliser les savoirs. Donc,
vous ne considérez pas le peuple comme un ensemble de gamins?
Pas du tout. Je pense que c'est à l'enseignant aujourd'hui d'aller vers les questions qui se posent dans la société et de répondre aux questions qu'ils nous posent et qui sont nombreuses, et de construire des espaces de débat, des espaces de débat critique avec les étudiants. Et croyez-moi, c'est plutôt ce qu'on essaye de faire.
Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Moi, je voudrais que Monsieur Worms, que j'apprécie beaucoup dans ses pathologies de la démocratie, nous parle de Marc Bloch, qui a quand même dénoncé les insuffisances des élites, qui coûtent quand même un pognon de dingue pour un degré d'innovation minimal. Donc, de l'étrange défaite, elle a été en 70, en 14-18, en 39-45. Est-ce qu'on continue là avec 40 piteuses? Voilà ma question.
Merci Jean-François. Frédéric Worms vous répond.
Oui, merci de cette référence majeure. Effectivement, il y a des moments où les élus, les intellectuels démissionnent, comme on disait dans les années 30. Marc Bloch, grand historien, devenu grand résistant et grande figure de notre histoire, a en effet parlé de la démission des élites. On a pu parler à un moment donné de la trahison des clercs. Je pense qu'il faut évidemment admettre que c'est possible. Mais le voir au cas par cas. Encore une fois, prenons l'exemple d'un homme politique corrompu ou d'un professeur qui n'explique plus la vérité ou d'un intellectuel qui appelle à la haine. Ce sont des abus de pouvoir, des renversements majeurs. C'est comme si un pilote d'avion nous crachait délibérément sur le sol. Il faut les condamner. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'élus, qu'on n'a plus besoin de médecins, qu'on n'a plus besoin de soi-même d'accéder à des responsabilités? Je ne le crois pas. Donc effectivement, c'est une déception majeure d'un grand républicain qui voit des élus républicains être corrompus, encourager la dissension, etc. Donc je crois qu'effectivement, être républicain, c'est avoir confiance dans le peuple, dans sa capacité à accéder aux responsabilités. Je crois qu'il y a un déséquilibre social majeur aujourd'hui. Je crois que ça doit venir en effet des gens, des citoyens, mais aussi d'une autocritique des élites. Je pense que le propre d'une élite légitime, c'est de permettre la critique, les contre-pouvoirs, une élite contre une autre, et parmi les élites, les expressions des citoyens eux-mêmes partout, les contre-pouvoirs partout, ça devrait être aussi notre mot d'ordre.
Frédéric Worms, merci. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure, et je rappelle le titre de ce livre de 2017, Les maladies chroniques de la démocratie, publié chez Desclés de Brouwer.
Merci infiniment à vous.
Merci
et bon courage
à vous
pour la suite.
Ben oui, et bonne fin d'année.